Chapitre 15. Théodore, Rosalinde, car je ne sais de quel nom vous appelez, je viens de vous voir tout à l'heure et je vous écris. Que je voudrais savoir votre nom de femme. Il doit être doux comme le miel et voltiger sur les lèvres plus suaves et plus harmonieuses que de la poésie. Jamais je n'eus osé vous dire cela. Cependant, je serais mort de ne pas le dire. Ce que j'ai souffert, nul ne le sait, nul ne peut le savoir, moi-même je ne pourrais en donner qu'une faible idée. Les mots ne rendent pas de telles angoisses. Je paraîtrais avoir contourné ma phrase à plaisir, m'être battu les flancs pour dire des choses neuves et singulières, et donner dans les plus extravagantes exagérations, quand je ne peindrais que ce que j'ai éprouvé, avec des images à peine suffisantes. Ô Rosalinde, je vous aime, je vous adore. Que n'est-il un mot plus fort que celui-là? Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais adoré personne que vous. Je me prosterne, je m'anéantis devant vous, et je voudrais forcer toute la création à plier le genou devant mon idole. Vous êtes pour moi plus que toute la nature, plus que moi, plus que Dieu. Il me semble étrange que Dieu ne descende pas du ciel pour se faire votre esclave. Où vous n'êtes pas, tout est désert, tout est mort, tout est soir. Vous seul peuplez le monde pour moi. Vous êtes la vie, le soleil, vous êtes tout. Votre sourire fait le jour, votre tristesse fait la nuit. Les sphères suivent les mouvements de votre corps, et les célestes harmonies se règlent sur vous, ô ma reine chérie, ô mon beau rêve réel. Vous êtes vêtue de splendeur et vous nagez sans cesse dans des effluves rayonnants. Il n'y a guère que 3 mois que je vous connais, mais je vous aime depuis bien longtemps. Avant de vous avoir vu, je languissais déjà d'amour pour vous. Je vous appelais, je vous cherchais, et je me désespérais de ne point vous rencontrer dans mon chemin, car je savais que je ne pourrais jamais aimer une autre femme. Que de fois vous m'êtes apparu à la fenêtre du château mystérieux, accoudé mélancoliquement au balcon, et jetant au vent des pétales de quelques fleurs, ou bien, pétulante amazone, sur votre cheval turc plus blanc que neige, traversant au galop les sombres allées de la forêt. C'était bien vos yeux fiers et doux, vos mains diaphanes, vos beaux cheveux ondoyants, et votre demi-sourire, si adorablement dédaigneux. Seulement, vous étiez moins belle, car l'imagination la plus ardente et la plus effrénée, l'imagination d'un peintre et d'un poète, ne peut atteindre à cette poésie sublime de la réalité. Il y a en vous une source inépuisable de grâce, une fontaine toujours jaillissante de séduction irrésistible. Vous êtes un écrin toujours ouvert des perles les plus précieuses, et dans vos moindres mouvements, dans vos gestes les plus oublieux, dans vos poses les plus abandonnées, vous jetez à chaque instant, avec une profusion royale, d'inestimables trésors de beauté. Si les molles ondulations de contour, si les lignes fugitives d'une attitude pouvaient se fixer et se conserver dans un miroir, les glaces devant lesquelles vous auriez passé feraient mépriser et regarder comme des enseignes de cabaret les plus divines toiles de Raphaël. Chaque geste, chaque air de tête, chaque aspect différent de votre beauté se grave sur le miroir de mon âme avec une pointe de diamant, et rien au monde n'en pourrait effacer la profonde empreinte. Je sais à quelle place était l'ombre, à quelle place était la lumière, le méplat que lustrait le rayon du jour, et l'endroit où le reflet errant se fondait avec les teintes plus assouplies du cou et de la joue. Je vous dessinerais absente. Votre idée pose toujours devant moi. Tout enfant, je restais des heures entières debout devant les vieux tableaux des maîtres, et j'enfouillais avidement les noires profondeurs. Je regardais ces belles figures de saintes et de déesses, dont les chairs d'une blancheur d'ivoire ou de cire se détachent si merveilleusement des fonds obscurs carbonisés par la décomposition des couleurs. J'admirais la simplicité et la magnificence de leurs tournures, la grâce étrange de leurs mains et de leurs pieds, la fierté et le beau caractère de leurs traits, à la fois si fins et si fermes, le grandiose des draperies qui voltigeaient autour de leur forme divine et dont les plis purpurins semblaient s'allonger comme des lèvres pour embrasser ces beaux corps. À force de plonger opiniâtrement mes yeux sous le voile de fumée épaissi par les siècles, ma vue se troublait, les contours des objets perdaient leur précision et une espèce de vie immobile et morte animait tous ces pâles fantômes des beautés évanouies. Je finissais par trouver que ces figures avaient une vague ressemblance avec la belle inconnue que j'adorais au fond de mon cœur. Je soupirais en pensant que celle que je devais aimer était peut-être une de celles-là, et qu'elle était morte depuis 300 ans. Cette idée m'affectait souvent, au point de me faire verser des larmes, et j'entrais contre moi de grande colère de n'être pas né au XVIe siècle, où toutes ces belles avaient vécu. Je trouvais que c'était de ma part une maladresse et une gaucherie impardonnable. Lorsque j'avançais en âge, le doux fantôme m'obséda encore plus étroitement. Je le voyais toujours entre moi et les femmes que j'avais pour maîtresses, souriant d'un air ironique et raillant leur beauté humaine de toute la perfection de sa beauté divine. Il me faisait trouver laide des femmes réellement charmantes et faites pour rendre heureux quiconque n'aurait pas été épris de cette ombre adorable dont je ne croyais pas que le corps existât et qui n'était que le pressentiment de votre propre beauté. Ô Rosalinde, que j'ai été malheureux à cause de vous avant de vous connaître. Ô Théodore, que j'ai été malheureux à cause de vous après vous avoir connu. Si vous voulez, vous pouvez m'ouvrir le paradis de mes rêves. Vous êtes debout sur le seuil, comme un ange gardien enveloppé dans ses ailes, et vous en tenez la clé d'or entre vos belles mains. Dites, Rosalinde, dites, le voulez-vous? Je n'attends qu'un mot de vous pour vivre ou pour mourir. Le prononcerez-vous? Êtes-vous Apollon chassé du ciel, ou la blanche Aphrodite sortant du sein de la mer? Où avez-vous laissé votre char de pierreries, attelé de 4 chevaux de flamme? Qu'avez-vous fait de votre coq de nacre et de vos dauphins à la queue azurée? Quelle nymphe amoureuse a fondu son corps dans le vôtre au milieu d'un baiser, ô beau jeune homme, plus charmant que Cyparis et qu'Adonis, plus adorable que toutes les femmes? Mais vous êtes une femme. Nous ne sommes plus au temps des métamorphoses. Adonis et Hermaphrodite sont morts. Et ce n'est plus par un homme qu'un pareil degré de beauté pourrait être atteint, car depuis que les héros et les dieux ne sont plus, vous seuls, conservés dans vos corps de marbre, comme dans un temple grec, le précieux nom de la forme anathématisée par Christ, et faites voir que la terre n'a rien à envier au ciel. Vous représentez dignement la première divinité du monde, la plus pure symbolisation de l'essence éternelle. La beauté. Dès que je vous ai vu, quelque chose s'est déchiré en moi, un voile est tombé, une porte s'est ouverte. Je me suis senti intérieurement inondé par des vagues de lumière. J'ai compris que ma vie était devant moi et que j'étais enfin arrivé au carrefour décisif. Les parties obscures et perdues de la figure à moitié rayonnante que je cherchais à démêler dans l'ombre, se sont illuminées subitement. Les teintes rembrunies qui noyaient le fond du tableau se sont doucement éclairées. Une tendre lueur rosée a glissé sur l'outre-mer, un peu verdie des lointains. Les arbres qui ne formaient que des silhouettes confuses ont commencé à se découper d'une manière plus nette. Les fleurs chargées de rosée ont piqué de points brillants la sourde verdure du gazon. J'ai vu le bouvreuil avec sa poitrine écarlate au bout d'une branche de sureau, le petit lapin blanc aux yeux roses et aux oreilles droites, qui sort sa tête entre deux bras de serpolet et passe sa patte sur son museau, et le cerf craintif qui vient boire à la source et mirer sa ramure dans l'eau. Du matin où le soleil de l'amour se levait sur ma vie, tout a changé. Là où vacillaient dans l'ombre des formes à peine indiquées que leur incertitude rendait terrible ou monstrueuse, se dessinent avec élégance des groupes d'arbres en fleurs, des collines s'arrondissent en gracieux amphithéâtres, des palais d'argent avec leurs terrasses chargées de vases et de statues baignent leurs pieds dans les lacs d'azur et semblent nager entre deux ciels. Ce que je prenais dans l'obscurité pour un dragon gigantesque, aux ailes armées d'ongles et rampant sur la nuit avec ses pattes écaillées, n'est qu'une félouque à la voile de soie, aux avirons peints et dorés, pleine de femmes et de musiciens, et cet effroyable crabe que je croyais voir agiter au-dessus de ma tête ses crochets et ses pinces, n'est qu'un palmier à éventail dont la brise nocturne remue les feuilles étroites et longues. Mes chimères et mes erreurs se sont évanouies. J'aime. Désespérant de vous trouver jamais, j'accusais mon rêve de mensonge et je faisais des querelles furieuses au sort. Je me disais que j'étais bien fou de chercher un pareil type, ou que la nature était bien inféconde et le créateur bien inhabile de ne pouvoir réaliser la simple pensée de mon cœur. Prométhée avait eu ce noble orgueil de vouloir faire un homme et de rivaliser avec Dieu. Moi, j'avais créé une femme, et je croyais qu'en punition de mon audace, un désir toujours inassouvi me rongerait le foie comme un autre vautour. Je m'attendais à être enchaîné avec des fers de diamant sur une roche chenue au bord du sauvage océan. Mais les belles nymphes marines aux longs cheveux verts, élevant au-dessus des flots leurs gorges blanches et pointues, et montrant au soleil leurs cordes nacres de perles tout ruisselant des pleurs de la mer, ne serait point venu s'accouler sur le rivage pour me faire la conversation et me consoler dans ma peine comme dans la pièce du vieil Eschyle. Il n'en a point été ainsi. Vous êtes venu et j'ai dû reprocher son impuissance à mon imagination. Mon tourment n'a pas été celui que je craignais, d'être perpétuellement en proie à une idée sur une roche stérile. Mais je n'en ai pas moins souffert. J'avais vu qu'en effet vous existiez, que mes pressentiments ne m'avaient point menti sur ce point, mais vous vous êtes présenté à moi avec la beauté ambiguë et terrible du sphinx. Comme Isis, la mystérieuse déesse, vous étiez enveloppé d'un voile que je n'osais soulever de peur de tomber mort. Si vous saviez, sous mes apparences distraites, avec quelle attention haletante et inquiète je vous observais et vous suivais jusque dans vos moindres mouvements. Rien ne m'échappait. Comme je regardais ardemment le peu qui paraissait de votre chair au cou et au poignet pour tâcher de constater votre sexe, vos mains ont été pour moi le sujet d'études profondes. Je puis dire que j'en connais les moindres sinuosités, les plus imperceptibles veines, la plus légère fossette. Vous seriez caché des pieds à la tête, sous le plus impénétrable domino, que je vous reconnaîtrais avoir seulement un de vos doigts. J'analysais les ondulations de votre marche, la manière dont vous posiez les pieds, dont vous releviez vos cheveux. Je cherchais à surprendre votre secret dans l'habitude de votre corps. Je vous épiais surtout à ces heures de mollesse où les os semblent retirés du corps et où les membres s'affaissent et ploient comme s'ils étaient dénoués, pour voir si la ligne féminine se prononcerait plus hardiment dans cet oubli et cette nonchalance. Jamais personne n'a été couvé du regard aussi ardemment que vous. Je m'oubliais dans cette contemplation pendant des heures entières. Retiré dans quelque coin du salon, ayant en main un livre que je ne lisais point, ou tapis derrière le rideau de ma chambre lorsque vous étiez dans la vôtre et que les jalousies de votre fenêtre étaient levées, alors, bien pénétré de la beauté merveilleuse qui se répand autour de vous et vous fait comme une atmosphère lumineuse, je me disais: Oh, assurément, c'est une femme! Puis tout à coup, un mouvement brusque et hardi, un accent viril ou quelque façon cavalière, détruisait dans une minute mon frêle édifice de probabilité et me rejetait dans mes irrésolutions premières. Je voguais à pleine voile sur l'océan sans bornes de la rêverie amoureuse, et vous veniez me chercher pour faire des armes ou jouer à la paume avec vous. La jeune fille, transformée en jeune cavalier, me donnait de terribles coups de bâton et me faisait sauter le fleuret des mains aussi prestement et aussi lestement que le spadassin le mieux rompu à l'escrime. À chaque instant de la journée, c'était quelque désappointement pareil. J'allais m'approcher de vous pour vous dire: Ma chère belle, c'est vous que j'adore. Et je vous voyais vous pencher tendrement à l'oreille d'une dame et lui souffler à travers ses cheveux des bouffées de madrigaux et de compliments. Jugez de ma situation. Ou bien quelque femme que, dans ma jalousie étrange, j'eusse écorchée vive avec la plus grande volupté du monde, se penchait à votre bras, vous tirait à part pour vous confier je ne sais quel puéril secret, et vous tenait des heures entières dans une embrasure de la croisée. J'enrageais de voir les femmes vous parler, car cela me faisait croire que vous étiez un homme, et l'eussiez-vous été, je ne l'aurais souffert qu'avec une peine extrême. Quand les hommes approchaient librement et familièrement, j'étais encore plus jaloux, parce que je songeais cela, que vous étiez une femme, et qu'ils en avaient peut-être le soupçon comme moi. J'étais en proie aux passions les plus contraires, et je ne savais à quoi me fixer. Je me colérais contre moi-même, je m'adressais les plus durs reproches d'être ainsi tourmenté par un semblable amour, et de n'avoir pas la force d'arracher de mon cœur cette plante vénéneuse qui y était poussée en une nuit comme un champignon empoisonné. Je vous maudissais, je vous appelais mon mauvais génie. J'ai cru même un instant que vous étiez Belzébuth en personne, car je ne pouvais m'expliquer la sensation que j'éprouvais devant vous. Quand j'étais bien persuadé que vous n'étiez en effet rien autre chose qu'une femme déguisée, l'invraisemblance des motifs dont je cherchais à justifier un pareil caprice me replongeait dans mon incertitude, et je me remettais de nouveau à déplorer que la forme que j'avais rêvée pour l'amour de mon âme se trouvait appartenir à quelqu'un du même sexe que moi. J'accusais le hasard qui avait habillé un homme d'apparence si charmante, et pour mon malheur éternel, me l'avait fait rencontrer au moment où je n'espérais plus voir se réaliser l'idée absolue de pure beauté que je caressais depuis si longtemps dans mon cœur. Maintenant, Rosalind, j'ai la certitude profonde que vous êtes la plus belle des femmes. Je vous ai vue dans le costume de votre sexe, J'ai vu vos épaules et vos bras si purs et si correctement arrondis. Le commencement de votre poitrine que votre gorgette laissait entrevoir ne peut appartenir qu'à une jeune fille. Ni Méléagre, le beau chasseur, ni Bacchus l'efféminé, avec leur forme douteuse, n'ont jamais eu une pareille suavité de ligne, ni une si grande finesse de peau, quoiqu'ils soient tous les deux de marbre de Paros et polis par les baisers amoureux de 20 siècles. Je ne suis plus tourmenté de ce côté-là. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes femme et mon amour n'est plus répréhensible. Je puis m'y livrer sans remords et m'abandonner au flot qui m'emporte vers vous. Si grande, si effrénée que soit la passion que j'éprouve, elle est permise et je la puis avouer. Mais vous, Rosalinde, pour qui je brûlais en silence et qui ignoriez l'immensité de mon amour, vous que cette révélation tardive ne fera peut-être que surprendre, ne me haïssez-vous pas? M'aimez-vous? Pourrez-vous m'aimer? Je ne sais, et je tremble, et je suis plus malheureux encore qu'auparavant. Par instant, il me semble que vous ne me haïssez pas. Quand nous avons joué comme il vous plaira, vous avez donné à certaines parties de votre rôle un accent particulier qui en augmentait le sens et m'engageait en quelque sorte à me déclarer. J'ai cru voir dans vos yeux et dans votre sourire de gracieuses promesses d'indulgence et sentir votre main répondre à la pression de la mienne. Oh, si je m'étais trompé, oh Dieu, c'est une chose à quoi je n'ose pas réfléchir. Encouragé par tout cela et poussé par mon amour, je vous ai écrit, car l'habit que vous portez se prête mal à de tels aveux, et 1000 fois la parole s'est arrêtée sur mes lèvres. Bien que j'eusse l'idée et la ferme conviction que je parlais à une femme, ce costume viril effarouchait toutes mes tendres pensées amoureuses et les empêchait de prendre leur vol vers vous. Je vous en supplie, Rosalinde, si vous ne m'aimez pas encore, tâchez de m'aimer, moi qui vous ai aimé malgré tout, sous le voile dont vous vous enveloppiez, par pitié pour vous sans doute. Ne jouez pas le reste de ma vie au plus affreux désespoir et au plus morne découragement. Songez que je vous adore depuis que le premier rayon de la pensée a lui dans ma tête, que vous m'étiez révélé d'avance et que lorsque j'étais tout petit, vous m'apparaissiez en songe avec une couronne de gouttes de rosée, deux ailes prismatiques et la petite fleur bleue à la main, que vous êtes le but, le moyen et le sens de ma vie, que sans vous je ne suis rien qu'une vaine apparence et que si vous soufflez sur cette flamme que vous avez allumée, il ne restera au fond de moi une pince de poussière plus fine et plus impalpable que celle qui saupoudre les propres ailes de la mort. Rosalinde, vous qui avez tant de recettes pour guérir le mal d'amour, guérissez-moi, car je suis bien malade. Jouez votre rôle jusqu'au bout. Jetez les habits du beau Ganymède et tendez votre blanche main au plus jeune fils du brave chevalier Roland des Bois. Chapitre 14. J'étais à ma fenêtre, occupé à regarder les étoiles qui s'épanouissaient joyeusement au parterre du ciel et à respirer le parfum des belles de nuit que m'apportait une brise mourante. Le vent de la croisée ouverte avait éteint ma lampe, la dernière qui resta allumée dans le château. Ma pensée dégénérait en vague rêverie et une espèce de somnolence commençait à me prendre. Cependant, je restais toujours accoudé sur la balustrade de pierre, soit que je fusse fasciné par le charme de la nuit, soit par nonchalance et par oubli. Rosette, ne voyant plus briller ma lampe, et ne pouvant me distinguer à cause d'un grand angle d'ombre qui tombait précisément sur la fenêtre, avait cru sans doute que j'étais couché, et c'était ce qu'elle attendait pour risquer une dernière et désespérée tentative. Elle poussa si doucement la porte que je ne l'entendis pas entrer, et qu'elle était à deux pas de moi avant que je m'en fusse aperçu. Elle fut très étonnée de me voir encore levé, mais, se remettant bientôt de sa surprise, elle vint à moi et me prit le bras en m'appelant deux fois par mon nom. « Théodore, Théodore !»« Quoi, vous, Rosette, ici, à 7 heures, toute seule, sans lumière, dans un déshabillé aussi complet ?» Il faut te dire que la belle n'avait sur elle qu'une mante de nuit en batiste excessivement fine et la triomphante chemise bordée de dentelle que je n'avais pas voulu voir le jour de la fameuse scène dans le petit kiosque du parc. Ses bras, polis et froids comme le marbre, étaient entièrement nus et la toile qui couvrait son corps était si souple et si diaphane qu'elle laissait voir les boutons des seins comme à ces statues des baigneuses couverte d'une râperie mouillée. Est-ce un reproche, Théodore, que vous me faites là, ou n'est-ce qu'une simple phrase purement exclamative? Oui, moi, Rosette, la belle dame d'ici, dans votre chambre à vous, non dans la mienne où je devrais être à 11 heures du soir, et peut-être minuit, sans duvet, ni chaperon, ni soubrette, presque nue en simple peignoir de nuit. Cela est bien étonnant, n'est-ce pas? J'en suis aussi surprise que vous, et je ne sais trop quelle explication vous en donner. » En disant cela, elle me passa un de ses bras autour du corps et se laissa tomber sur le pied de mon lit, de façon à m'entraîner avec elle. « Rosette, lui dis-je en m'efforçant de me dégager, je m'en vais tâcher de rallumer la lumière. » Rien n'est triste comme l'obscurité dans une chambre. Et puis c'est vraiment un meurtre de ne pas y voir clair quand vous êtes là et de se priver du spectacle de vos beautés. Permettez qu'au moyen d'un morceau d'amadou ou d'une allumette, je me fasse un petit soleil portatif qui mette en relief tout ce que la nuit jalouse efface sous ses ombres. Non, ce n'est pas la peine. J'aime autant que vous ne voyez pas ma rougeur. Je me sens les joues toutes brûlantes, car c'est à mourir de honte. » Elle se jeta la figure contre ma poitrine. Elle resta quelques minutes ainsi, comme suffoquée par son émotion. Moi, pendant ce temps-là, je passais machinalement mes doigts dans les longues boucles de ses cheveux déroulés. Je cherchais dans ma cervelle quel honnête échappatoire pour me tirer d'embarras. Je n'en trouvais point, car j'étais acculé dans mes derniers retranchements, et Rosette paraissait parfaitement décidée à ne pas sortir de la chambre comme elle y était entrée. Son habillement avait une désinvolture formidable et qui me promettait rien de bon. Je n'avais moi-même qu'une robe de chambre ouverte et qui formellement défendit mon incognito, en sorte que j'étais on ne peut plus inquiète de l'issue de la bataille. « Théodore, écoutez-moi, » dit Rosette en se relevant et en rejetant ses cheveux des deux côtés de sa figure, autant que je pus le discerner à la faible lueur que les étoiles et un croissant de lune très mince qui commençait à se lever jetaient dans la chambre dont la croisée était restée ouverte. « La démarche que je fais est étrange. Tout le monde me blâmerait de l'avoir faite. Mais vous allez partir bientôt, et je vous aime. Je ne puis vous laisser ainsi sans m'être expliqué avec vous. Peut-être ne reviendrez-vous jamais, peut-être est-ce la première et la dernière fois que je dois vous voir. Qui sait où vous irez? Mais où que vous alliez, vous emporterez mon âme et ma vie avec vous. Si vous étiez resté, je n'en serais pas venu à cette extrémité. Le bonheur de vous contempler, de vous entendre, de vivre à côté de vous, m'eût suffi, je n'eusse rien demandé de plus. J'aurais refermé mon amour dans mon cœur. Vous auriez cru n'avoir en moi qu'une bonne et sincère amie, mais cela ne peut pas être. Vous dites qu'il faut absolument que vous partiez. Cela vous ennuie, Théodore, de me voir ainsi, attaché à vos pas, comme une ombre amoureuse, qui ne peut que vous suivre et qui voudrait se fondre à votre corps. Il doit vous déplaire de retrouver toujours derrière vous des yeux suppliants et des mains tendues pour saisir le bord de votre manteau. Je le sais, mais je ne puis m'empêcher de le faire. Au reste, vous ne pouvez pas vous en plaindre, c'est votre faute. J'étais calme, tranquille, presque heureuse avant de vous connaître. Vous arrivez, beau, jeune, souriant, pareil à Phébus, le dieu charmant. Vous avez pour moi les soins les plus empressés, les plus délicates attentions. Jamais cavalier ne fut plus spirituel et plus galant. Vos lèvres, chaque minute, laissaient tomber des roses et des rubis. Tout devenait pour vous une occasion de madrigal, et vous savez tourner les phrases les plus insignifiantes pour en faire d'adorables compliments. Une femme qui vous aurait d'abord mortellement haï aurait fini par vous aimer. Et moi, je vous aimais dès l'instant où je vous avais vu. Mais pourquoi paraissiez-vous donc surpris, ayant été si aimable, d'être tant aimé? N'est-ce pas une conséquence toute naturelle? Je ne suis ni une folle, ni une évaporée, ni une petite fille romanesque qui sait prendre la première épée qu'elle voit. J'ai du monde et je sais ce que c'est que la vie. Ce que je fais, toute femme, même la plus vertueuse ou la plus prude, en eût fait autant. Mais quelle idée et quelle intention aviez-vous? Celle de me plaire, j'imagine, car je n'en puis supporter d'autres. Mais comment se fait-il donc que vous avez, en quelque sorte, l'air fâché d'y avoir si bien réussi? Ai-je fait, sans le vouloir, quelque chose qui vous a déplu? Je vous en demande pardon. Est-ce que vous ne me trouvez plus belle ou avez-vous découvert en moi quelques défauts qui vous rebutent? Vous avez le droit d'être difficile en beauté, mais vous avez menti étrangement. Où je suis aussi belle, moi? Je suis jeune comme vous, et je vous aime. Pourquoi maintenant me dédaignez-vous? Vous vous empressiez tant autour de moi, vous souteniez mon bras avec une sollicitude si constante. Vous pressiez si tendrement la main que je vous abandonnais, vous leviez vers moi des paupières si langoureuses. Mais si vous ne m'aimiez pas, à quoi bon tout ce manège? Auriez-vous eu par hasard cette cruauté d'allumer l'amour dans un cœur pour vous en faire ensuite un sujet le risé? Ah, mais ce serait une horrible raillerie, une impiété et un sacrilège. Ce ne pourrait être que l'amusement d'une âme affreuse. Mais je ne puis croire cela de vous, tout inexplicable que soit votre conduite envers moi. Mais quelle est donc la cause de ce revirement subit? Quant à moi, je n'y en vois point. Mais quel mystère cache une pareille froideur? Je ne puis croire que vous ayez de la répugnance pour moi. Ce que vous avez fait prouve que non, car on ne courtise pas aussi vivement une femme pour qui l'on a du dégoût, fût-on le plus grand fourbe de la terre. Oh, Théodore, qu'avez-vous contre moi? Qui vous a changé ainsi? Que vous ai-je fait? Si l'amour que vous paraissiez avoir pour moi s'est envolé, le mien, hélas, est resté, et je ne puis l'arracher de mon cœur. Ayez pitié de moi, Théodore, car je suis bien malheureuse. Faites du moins semblant de m'aimer un peu, et dites-moi quelques douces paroles. Cela ne vous coûtera pas beaucoup, à moins que vous n'ayez pour moi une insupportable horreur. En cet endroit pathétique de son discours, ses sanglots étouffèrent complètement sa voix. Elle croisa ses deux mains sur mon épaule et s'y appuya le front dans une attitude tout à fait désespérée. Tout ce qu'elle disait était on ne peut plus juste, et je n'avais rien de bon à répondre. Je ne pouvais prendre la chose sur le ton du persiflage, cela n'eût pas été convenable. Rosette n'était pas de ces créatures que l'on put traiter aussi légèrement. J'étais d'ailleurs trop touché pour le pouvoir faire. Je me sentais coupable de m'être joué ainsi du cœur d'une femme charmante, et j'en éprouvais le plus vif et le plus sincère remords du monde. Voyant que je ne répondais rien, la chère enfant poussa un long soupir et fit un mouvement comme pour se lever, mais elle retomba affaissée sous son émotion. Puis elle m'entoura de ses bras dont la fraîcheur pénétrait mon pourpoint, posa sa figure sur la mienne et se mit à pleurer silencieusement. Cela me fit un effet singulier de sentir ainsi ruisseler sur ma joue cet intarissable courant de larmes qui ne partait pas de mes yeux. Je ne tardais pas à y mêler les miennes, et ce fut une véritable pluie amère à causer un nouveau déluge si elle eût duré seulement 40 jours. La lune en cet instant-là vint donner précisément sur la fenêtre. Un pâle rayon plongea dans la chambre et éclaira d'une lueur bleuâtre notre groupe taciturne. Avec son peignoir blanc, ses bras nus, sa poitrine et sa gorge découvertes, presque de la même couleur que son linge, ses cheveux épars et son air douloureux, Rosette avait l'air d'une figure d'albâtre de la mélancolie assise sur un tombeau. Quant à moi, je ne sais trop quelle figure je pouvais avoir, attendu que je ne me voyais pas et qu'il n'y avait point de glace qui pût réfléchir mon image, mais je pense que j'aurais très bien pu poser pour une statue de l'incertitude personnifiée. J'étais ému, et je fis à Rosette quelques caresses plus tendres qu'à l'ordinaire. De ses cheveux, ma main était descendue à son cou velouté, et de là à son épaule ronde et polie, que je flattais doucement et dont je suivais la ligne frémissante. L'enfant vibrait sous mon toucher comme un clavier sous les doigts d'un musicien. Sa chair tressaillait et sautait brusquement, et d'amoureux frissons couraient le long de son corps. Moi-même, j'éprouvais une espèce de désir vague et confus, dont je ne pouvais démêler le but, et je sentais une grande volupté à parcourir ses formes pures et délicates. Je quittais son épaule et, profitant du hiatus d'un pli, j'enfermais subitement dans ma main sa petite gorge effarée qui palpitait éperdument comme une tourterelle prisonnie. De l'extrême contour de sa joue, que j'effleurais d'un baiser à peine sensible, j'arrivais à sa bouche mi-ouverte. Nous restâmes ainsi quelque temps. Je ne sais pas, par exemple, si ce fut 2 minutes ou 1 quart d'heure ou 1 heure, car j'avais totalement perdu la notion du temps et je ne savais pas si j'étais au ciel ou sur la terre, ici ou ailleurs, morte ou vivante. Le vin capiteux de la volupté m'avait tellement enivré à la première gorgée que j'avais bu que tout ce que j'avais de raison s'en était allé. Rosette me nouait de plus en plus avec ses bras et m'enveloppait de son corps. Elle se penchait sur moi convulsivement et me pressait sur sa poitrine nue et haletante. À chaque baiser, sa vie semblait accourir tout entière à la place touchée et abandonner le reste de sa personne. Des idées singulières me passaient par la tête. J'aurais, si j'en avais craint de trahir mon incognito, laissé un champ libre aux les empassionnés de Rosette, et peut-être aurais-je fait quelques vaines et folles tentatives pour donner un semblant de réalité à cette ombre de plaisir que ma belle amoureuse embrassait avec tant d'ardeur. Je n'avais pas encore eu d'amant, et ces vives attaques, ces caresses réitérées, le contact de ce beau corps, ces doux noms perdus dans des baisers me troublaient au dernier point, quoi qu'ils fussent d'une femme. Et puis cette vision nocturne, cette passion romanesque, ce clair de lune, tout cela avait pour moi une fraîcheur et un charme de nouveauté qui me faisait oublier qu'au bout du compte, je n'étais pas un homme. Pourtant, faisant un grand effort sur moi-même, je dis à Rosette qu'elle se compromettait horriblement en venant dans ma chambre une pareille heure et y restant aussi longtemps, et que ces femmes pourraient s'apercevoir de son absence et voir qu'elle n'avait pas passé la nuit dans son appartement. Je dis cela si mollement que Rosette, pour toute réponse, laissa tomber sa main de batiste et ses pantoufles et se glissa dans mon lit comme une couleuvre dans une jatte de lait, car elle imaginait que mes habits m'empêchaient seul d'en venir à des démonstrations plus précises et que c'était l'unique obstacle qui me retenait. Elle croyait, la pauvre enfant, que l'heure du berger, si laborieusement amenée, allait enfin sonner pour elle. Mais il ne sonna que 2 heures du matin. Ma situation était on ne peut plus critique lorsque la porte tourna sur ses gonds et donna passage au même chevalier Alcibiade en personne. Il tenait un bougeoir d'une main et son épée de l'autre. Il alla droit au lit dont il rejeta la couverture et mettant la lumière sous le nez de Rosette confondue, il lui dit d'un ton goguenard « Bonjour, ma sœur !» La petite Rosette n'eut pas la force de trouver une parole pour répondre. « Il paraît donc, ma très chère et très vertueuse sœur, qu'ayant jugé dans votre sagesse que le lit du seigneur Théodore était plus douillet que le vôtre, vous êtes venue vous y coucher. Ou peut-être revient-il des esprits dans votre chambre, et avez-vous pensé que vous seriez plus en sûreté dans celle-ci, sous la garde du susdit seigneur ? C'est fort bien vu. Ah, monsieur le chevalier de Sérane, vous avez fait les 12 yeux à madame notre sœur, et vous croyez qu'il n'en sera que cela. J'estime qu'il ne serait pas malsain de nous couper un peu la gorge, et si vous aviez cette complaisance, je vous serais infiniment obligé. Théodore, vous avez abusé de l'amitié que j'avais pour vous, et vous me faites repentir de la bonne opinion que j'avais tout d'abord formée sur la loyauté de votre caractère. C'est mal, très mal. Je ne pouvais me défendre d'une manière valable. Les apparences étaient contre moi. Qui m'aurait cru si j'avais dit, comme cela était en effet, que Rosette n'était venue dans ma chambre que malgré moi, et que loin de chercher à lui plaire, je faisais tout mon possible pour la détourner de moi. Je n'avais qu'une chose à dire, je la dis. Seigneur Alcibiade, nous nous couperons tout ce que vous voudrez. Pendant ce colloque, Rosette n'avait pas manqué de s'évanouir selon les plus saines règles du pathétique. J'allais à une coupe de cristal pleine d'eau où plongeait la queue d'une grosse rose blanche à moitié effeuillée, et je lui jetai quelques gouttes à la figure, ce qui la fit revenir à elle promptement. Ne sachant trop quelle contenance tenir, elle se blottit dans la ruelle et fourra sa jolie tête sous la couverture comme un oiseau qui s'arrange pour dormir. Elle avait tellement ramassé les draps et les coussins autour d'elle qu'il eût été fort difficile de discerner ce qu'il y avait sous ce monceau. Quelques petits soupirs flûtés, qui en sortaient de temps à autre, pouvaient seuls faire devenir que c'était une jeune pécheresse repentante, ou du moins excessivement fâchée de n'être pécheresse que d'intention et non de fait, ce qui était le cas de l'infortunée Rosette. Monsieur le frère, n'ayant plus d'inquiétude sur sa sœur, reprit le dialogue et me dit d'un ton fort, un petit peu plus doux, « Il n'est pas absolument indispensable de nous couper la gorge sur le champ. C'est un moyen extrême qu'on est toujours à temps d'employer. Écoutez, la partie n'est pas égale entre nous. Vous êtes de la première jeunesse et beaucoup moins vigoureux que moi. Si nous nous battions, je vous tuerais ou je vous estropierais, assurément. Et je ne voudrais ni vous tuer ni vous défigurer. Ce serait dommage. Rosette, qui est là-bas sous la couverture et qui ne dit mot, m'en voudrait toute sa vie. Car elle est rancunière et mauvaise comme une tigresse quand elle s'y met, cette chère petite colombe. Vous ne savez pas cela, vous qui êtes son prince Galaor, et qui n'en recevez que le charmant de douceur. Mais il n'y fait pas bon. Rosette est libre, vous aussi. Il paraît que vous n'êtes pas irréconciliablement ennemis. Son veuvage va finir, et la chose se trouve le mieux du monde. Épousez-la. Elle n'aura pas besoin de retourner coucher chez elle, et moi, de cette façon-là, je serai dispensé de vous prendre pour fourreau de mon épée, ce qui me serait agréable ni pour vous ni pour moi. Que vous en semble ? Je dus faire une horrible grimace, car ce qu'il me proposait était de toutes les choses du monde la plus inexécutable pour moi. J'aurais plutôt marché à quatre pattes contre le plafond comme les mouches et décroché le soleil sans prendre de marchepied pour me hausser que de faire ce qu'il me demandait. Et cependant, la dernière proposition était plus agréable incontestablement que la première. Il parut surpris que je n'acceptasse pas avec transport, et il répéta ce qu'il avait dit comme pour me donner le temps de répliquer. « Votre alliance est on ne peut plus honorable pour moi, et je n'ai jamais osé y prétendre. Je sais que c'est une fortune inouïe pour un jeune homme qui n'a point encore de rang ni de consistance dans le monde, et que les plus illustres s'en estimeraient tout heureux. Mais cependant, je ne puis que persister dans mon refus. Et puisque j'ai la liberté du choix, entre le duel et le mariage, je préfère le duel. C'est un goût singulier que peu de gens auraient, mais c'est le mien. » Ici, Rosette souffla le plus douloureux sanglot du monde, sortit sa tête de dessous l'oreiller et l'y rentra aussitôt comme un limaçon dont on frappe les cornes en voyant ma contenance impassible et délibérée. « Ce n'est pas que je n'aime point Madame Rosette, je l'aime infiniment. Mais j'ai des raisons de ne point me marier, que vous-même trouveriez excellentes, s'il m'était possible de vous les dire. Au reste, les choses n'ont pas été aussi loin que l'on pourrait le croire, d'après les apparences. Or, quelques baisers, qu'une amitié un peu vive suffit à expliquer et à justifier, il n'y a rien entre nous dont on ne puisse convenir, et la vertu de votre sœur est assurément la plus intacte et la plus nette du monde. Je lui devais ce témoignage. Alors maintenant, à quelle heure nous battons-nous, monsieur Alcibiade, et à quel endroit ? Ici, sur le champ ! Cria Alcibiade, ivre de fureur. Oh, y pensez-vous devant Rosette ? « Dégaine, misérable, ou je t'assassine » continua-t-il en brandissant son épée et en l'agitant autour de sa tête. Oh, « sortons au moins de la chambre. Si tu ne te mets pas en garde, je vais te clouer contre le mur comme une chauve-souris, mon beau céladon. Et tu auras beau battre de l'aile, tu ne décrocheras pas, je t'en avertis. » Et il fondit sur moi, l'épée haute. Je tirai ma rapière, car il l'aurait fait comme il le disait, et je me contentais d'abord de parer les bottes qu'il me portait. Rosette fit un effort surhumain pour venir se jeter entre nos épées, car les deux combattants lui étaient également chers. Mais ses forces la trahirent, et elle roula sans connaissance sur le pied du lit. Nos fers étincelaient et faisaient le bruit d'une enclume, car le peu d'espace que nous avions nous forçait à engager nos épées de très près. Alcibiade manqua deux ou trois fois de m'atteindre, et si je n'eusse pas eu un excellent maître en fait d'armes, ma vie aurait couru le plus grand danger, car il était d'une aisance étonnante et d'une force prodigieuse. Il épuisa toutes les ruses et les feintes de l'escrime pour me toucher. Enragé de ne pouvoir y parvenir, il se découvrit deux ou trois fois. Je n'en voulus pas profiter. Mais il revenait à la charge avec un emportement si acharné et si sauvage que je fus forcé de saisir les jours qu'il me laissait. Et puis ce bruit et ces éclairs tourbillonnants de l'acier m'enivraient et m'éblouissaient. Je ne pensais pas à la mort, je n'avais pas la moindre peur. Cette pointe aiguë et mortelle qui me venait devant les yeux à chaque seconde ne faisait pas plus d'effet que si je me fusse battu avec des fleurets boutonnés. Seulement, j'étais indigné de la brutalité de l'Alcibiade, et le sentiment de mon innocence parfaite augmentait encore cette indignation. Je voulais seulement lui piquer le bras ou l'épaule pour lui faire tomber son épée des mains, car j'avais essayé vainement de la lui faire sauter. Il avait un poignet de fer, et le diable ne le lui eût pas fait bouger. Enfin, il me porta une botte si vive et si à fond que je ne pus la parer qu'à demi. Ma manche fut traversée et je sentis le froid du fer sur mon bras, mais je ne fus pas blessé. À cette vue, la colère me prit, et au lieu de me défendre, j'attaquai à mon tour. Je ne songeai plus que c'était le frère de Rosette, et je fondis sur lui comme si c'eût été mon ennemi mortel. Profitant d'une fausse position de son épée, je lui poussai une flaconnade et bien liée que j'atteignis au côté. Il fit « Oh, oh !» et tomba en arrière. Je le crus mort, mais il n'était réellement que blessé, et sa chute provenait d'un faux pas qu'il avait fait en essayant de rompre. Je ne puis exprimer, Graciosa, la sensation que j'éprouvais. Certes, ce n'est pas une réflexion difficile à faire, qu'en frappant de la chair avec une pointe fine et tranchante, on y percera un trou, qu'il en jaillira du sang. Cependant, je tombais dans une stupeur profonde en voyant ruisseler des filets rouges sur le pourpoint d'Alcibiade. Je n'imaginais pas sans doute qu'il en sortirait le son comme du ventre crevé d'un poupard. Mais je sais que jamais de ma vie je n'éprouvais une aussi grande surprise. Il me sembla qu'il venait de m'arriver quelque chose d'inouï. Ce qui était inouï, ce n'était pas, ainsi qu'il me paraissait, que du sang coula d'une blessure, mais c'était que cette blessure eût été ouverte par moi, et qu'une jeune fille de mon âge, j'allais écrire un jeune homme, tant je suis bien entré dans l'esprit de mon rôle, eût jeté sur le carreau un capitaine vigoureux, rompu à l'escrime comme l'était le seigneur Alcibiade, le tout pour crime de séduction et refus de mariage, avec une femme fort riche et fort charmante, qui plus est. J'étais véritablement dans un embarras cruel avec la sœur évanouie, le frère que je croyais mort, et moi-même qui n'étais pas très loin d'être évanouie ou morte, comme l'un ou comme l'autre. Je me pendis au cordon de la sonnette, et je carillonnais à réveiller des morts tant que le ruban me resta à la main. Et, laissant à Rosette pâmée et Alcibiade éventrée le soin d'expliquer les choses aux domestiques, et à la vieille tante, j'allais droit à l'écurie. L'air me remit sur le champ. Je fis sortir mon cheval, je le sellai, je le bridai moi-même. Je m'assurai si la croupière tenait bien, si la gourmette était en bon état. Je mis les étriers de la même longueur, je resserrai la sangle d'un cran, bref, je le harnachai complètement avec une attention au moins singulière dans un moment pareil, et un calme tout à fait inconcevable après un combat ainsi terminé. Je montai sur ma bête et je traversai le parc par un sentier que je connaissais. Les branches d'arbres, toutes chargées de rosée, me fouettaient, me bouillaient la figure. On eût dit que les vieux arbres étendaient les bras pour me retenir et me garder à l'amour de leur châtelaine. Si j'avais été dans une autre disposition d'esprit, ou quelque peu superstitieuse, il n'aurait tenu qu'à moi de croire que c'était autant le fantôme qui voulait me saisir et qui me montrait le poing. Mais réellement, je n'avais aucune idée, ni celle-là ni une autre. Une stupeur de plomb si forte que j'en avais à peine la conscience, me pesait sur la cervelle comme un casque trop étroit. Seulement, il me semblait bien que j'avais tué quelqu'un par là et que c'était pour cela que je m'en allais. J'avais, au reste, horriblement envie de dormir, soit à cause de leur avancée, soit que la violence des émotions de cette soirée eût une réaction physique et m'eût fatigué corporellement. J'arrivai à une petite poterne qui s'ouvrait sur les champs par un secret que Rosette m'avait montré dans notre promenade. Je descendis de cheval, je touchai le bouton et je poussai la porte. Je me remis en selle après avoir fait passer mon cheval et je lui fis prendre le galop jusqu'à ce que j'eusse rejoint la grande route de C où j'arrivai à la petite pointe du jour. Ceci est l'histoire très fidèle et très circonstanciée de ma première bonne fortune et de mon premier duel.